Boulevard 102-1.
Le mois de novembre s'en vient, les amis. On regarde les températures. On est dans le moins 1 actuellement sur Québec avec le refroidissement éolien. Avec le vent plein face, comme on disait dans le temps, ben c'est une température ressentie de moins 3 degrés. Pour ce qui est d'aujourd'hui, ce sera du soleil, maximum de 10. Demain, mercredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 9. Jeudi, des nuages avec un maximum de 9. Et la pluie serait prévue cette semaine pour ce qui est de vendredi. Et samedi et dimanche, on revient aux nuages. Donc, pour ce qui est de vendredi, maximum de 10, maximum de plus 5 pour samedi et un maximum de plus 5 pour dimanche. Bonne semaine à tout le monde. Max!
C'est compliqué comme mardi sur les routes, entre autres en raison d'une panne survenue un peu plus tôt là, vers l'accès au pont Pierre-Laporte direction nord, ce qui fait qu'il y a des répercussions qui se font encore bien sentir. Par la 20 est, ça ralentit un peu après route Lagueux. 20 ouest, ça bloque à chemin des îles. 73 nord à peu près à hauteur de rue Beaulieu. Pont de Québec direction nord, c'est Benjamin aussi. La 40 direction ouest, un ralentissement qui s'est ajouté entre Duplessis et Henri IV. Capitale est de l'entrée par Henri IV jusqu'à l'approche de Pierre-Bertrand, il y a des ralentissements considérables. Capitale Ouest, mi-chemin entre Seigneurial et Beau-Royal jusqu'à l'approche de Laurentienne, c'est au rouge. Robert-Brossard-Sud, vers le boulevard Le Bourgneuf, c'est jamais. En 4 Sud, avant Sainte-Geneviève jusqu'à Chauveau-Ouest, au rouge aussi. 4 sur roule vers Shannon, dans le coin de l'entrée de la base militaire, c'est au ralenti. Et le bon vieux classique 2 œufs bacon, Laurentienne-Sud vers rue de la Faune, aussi au rouge.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'actualité municipale et provinciale nous donne du fil à retordre. C'est difficile de tout couvrir. Bien honnêtement, des fois, on a des choix éditoriaux à faire, ce qui fait en sorte qu'on laisse des sujets de côté. La bonne nouvelle, c'est qu'on a toujours le plaisir d'avoir comme collaboratrice Valérie Gaudreau, qui est chroniqueuse politique municipale à l'Assemblée et aussi à l'Assemblée nationale pour le Soleil. Salut Valérie!
Bonjour Yannick!
Merci d'être là. Hein? Il y a beaucoup d'actualités, que ce soit municipale ou provinciale. Hier, c'était le débat des gens qui se présentent à la mairie de Québec à TVA. J'ai écouté ça. Oui. On n'a rien appris de nouveau. J'ai hâte de voir le prochain sondage sur les intentions de vote, à savoir si Amad a augmenté un peu parce qu'il avait descendu dans le dernier sondage, à savoir si Stéphane Lachance avait monté un peu ou il a descendu en raison de ce qu'on connaît de l'actualité de la semaine dernière. Ça brasse en maudit, mais pour ce qui est des débats, là, on va se dire, je pense qu'on a fait le tour jusqu'à maintenant.
Bien, il y a beaucoup de débats, hein? Puis effectivement, je l'ai écouté hier aussi, très bon travail de Julie Couture. Bon, évidemment, surtout des gens comme nous qui en suivons beaucoup, on a le sentiment que les... Je dirais pas que les jeux sont faits, mais c'est sûr qu'à ce moment-ci, les positions sont cristallisées. On commence à voir, presque à pouvoir deviner, là, certaines phrases choc, hein? Monsieur Hamad qui dit « Monsieur Marchand n'a rien fait, on revient avec la promesse d'itinérance zéro ». On parle de taxes. Alors, c'est sûr qu'on commence là à avoir fait le tour un petit peu. Il n'y a pas eu de moment marquant. En fait, je me disais hier, Jackie Smith n'était pas là. Hein. Et rappelons-nous, Yannick, dans les débats qu'il y avait eu, bon, un à nouveau notamment, et un que le Soleil avait organisé avec Radio-Canada la semaine dernière, Jackie Smith a fait un peu des sideshows. Hein. Elle avait questionné sur le lieu de résidence de M. Hamad et M. Lachance. Dans un autre débat, elle était arrivée avec le passé là,
de Sam Hamad.
De M. Hamad, la commissaire à l'éthique et tout. Alors, on dirait que quand elle était arrivée dans ces moments-là, peut-être elle a acheté un peu des bombes là en dehors des débats, mais lorsqu'on s'en tient à mobilité, finance, sécurité, itinérance, c'est des thèmes où on voit là qu'effectivement, les candidats, ils se connaissent bien entre eux. Hein. Quand tu es rendu à une quinzaine de débats, à un moment donné, tu anticipes beaucoup ce que va dire l'adversaire. Alors, ça commence à sentir la fin là, de cette campagne.
Ouais. Est-ce qu'on peut encore mentir dans les débats? Parce que plusieurs fois, là, hier, pour ceux qui suivent l'actualité municipale, là, plusieurs fois, on a vu qu'il y avait des candidats qui se lançaient la balle et qui mentaient en se lançant la balle. Puis plusieurs fois, on se traitait de menteur. Est-ce que c'est bon, ça, pour la politique en général, quand tout le monde se traite de menteur? Puis toi, ben, t'es un téléspectateur ou t'es un auditeur, puis t'entends ces gens-là dire des trucs, puis t'as pas le choix d'aller vérifier. Remarque, est-ce que c'est tout le monde qui va vérifier? Je suis pas sûr. Mais je suis pas sûr que c'est bon, ça, de se traiter de menteur puis de dire des menteries dans les débats, là.
Non, ce n'est pas bon du tout. Et t'as raison, à part les gens qui feront l'effort d'aller vérifier. Or, l'ironie là-dedans, c'est que je reviens à toi et moi qui sommes là-dedans à journée longue. On l'a entendu souvent, on a entendu dans une autre tribune, dans un article, dans une entrevue radio, on a entendu ce démenti-là ou cette précision-là. Alors, lorsqu'on est devant l'exercice de débat, je prends quelqu'un qui, par exemple, n'aurait écouté qu'un ou deux débats dans la campagne, est-ce qu'il va véritablement aller faire cet effort d'aller contre-vérifier, d'autant plus que souvent, si tu fais l'effort de contre-vérifier, ben c'est que tu as déjà un intérêt préalable pour la politique. Alors, c'est un peu là, la roue qui tourne. C'est sûr que ça fait effet. Est-ce que c'est véritablement un mensonge à 100%? Est-ce qu'on gagne à dire non, c'est pas vrai ce que vous dites pour faire justement un peu son effet de toge? Alors, oui, ça peut devenir difficile. Et c'est sûr que les formules de débat aussi ne permettent pas toujours là, la réplique. Mm-hmm. Alors, ça laisse comme en suspens une impression parfois. Et de se traiter de menteur n'est jamais très bon pour contrer le cynisme en démocratie.
Ouais, puis un bel exemple de demi-vérité, Valérie, hier, c'est le débat autour du 3 cents additionnel pour le litre d'essence, ouais. La taxe marchand. T'sais, si on suit l'actualité de façon rigoureuse, on sait que c'était une décision de la CMQ, donc incluait les membres de la communauté métropolitaine de Québec, dont Gilles Loulier à Lévis, là, qui était pour cette taxe-là. Puis c'est Jonathan Julien qui a bloqué le tout et non pas les autres maires. Donc, il y a une demi-vérité dans l'affirmation de Sam Hamad, il y a une demi-vérité dans la réponse de Bruno Marchand. Fait que c'est dur pour le citoyen moyen de s'y retrouver. Là.
Bien, certainement, et d'autant que précisément, c'est intéressant de dire que tu arrives sur ce point-là. Parce que M. Hamad, dans son affirmation, disait merci au maire Saint-Augustin, l'ancienne Norette, Lévis.
Alors qu'il était pauvre.
C'est quarantaine de municipalités, la CMQ.
C'est ça.
Donc, c'est un peu. C'est comme s'il avait mêlé un peu l'aglo avec la CMQ.
Oui.
Alors, ça montre à quel point. Puis, de toute façon, entre nous, puis je pense que là-dessus, Claude Villeneuve a été une très bonne réplique quand il disait à M. Hamad, écoutez, là. Ça, c'est des taxes imaginaires. Là. On reviendra pas dans le passé. On manque jamais une occasion de dire que M. Hamad revient dans le passé. Et il disait, tu sais, regarde, c'est hypothétique là, de dire aux gens à la maison, il a voulu vous taxer. Bon, je comprends ce que M. Hamad veut faire. Ce qu'il dit, c'est que c'est une méthode de M. Marchand qui pourrait vouloir y avoir recours dans le futur. Mais ça reste que c'est vrai que c'est un débat qui était fermé. Prendre de précieuses minutes à revenir sur quelque chose qui est déjà closé par le ministre, effectivement, c'est quand même un peu... Ça peut aussi mêler les gens là, à certains égards.
Valérie, Claude Villeneuve monte pas tout simplement parce que dans ses quatre ans, l'opposition, il a pas été capable de se démarquer. Je me trompe-tu en affirmant ça?
Ben c'est absolument. Ben c'est la tristesse de Claude Villeneuve parce qu'il reste, et moi je l'ai écrit dans mes chroniques, il y a eu quelques débats où il s'est, à mon avis, tiré carrément gagnant. C'est quelqu'un qui arrive à avoir à la fois des phrases choc et de ramener le débat. Quand ça se met là à partir, il est comme, hey, on est-tu en train vraiment de parler de ça? T'sais, il y a un côté adulte dans la pièce là qui a été quand même très efficace et il est bon orateur. Quand on le voit en débrief, là, je me souviens du débat de la semaine dernière, il le dit, il aime ces exercices-là, il est bon, mais il porte ces quatre années où on s'est dit, ben, écoute, la question du tramway, elle est majeure, il est pour. Il est pour des grandes lignes, c'est-à-dire la qualité de vie, penser aux familles, la proximité. On est tous d'accord avec ça. Et il a peiné. Je pense que c'est vraiment ce qui a marqué. Ça me fait penser, Jeff, à une caricature d'André-Philippe Côté hier dans Le Soleil. Avant-hier, où vous avez Claude Villeneuve, on voyait tous les candidats après le débat la semaine dernière, puis il disait, ça, c'est le gars qui est bon, mais personne vote pour lui.
Ouais, hein? C'est ça.
On est tous d'accord. Claude Villeneuve est sympathique. Il a un excellent sens de la répartie, mais ça ne se traduit pas parce que là, les gens ont peiné à voir en quoi son offre politique elle est si différente de Bruno Marchand. Parce que, qu'on le veuille ou non, le tramway marque la ligne rouge souvent entre les positions. Mm-hmm. Et en étant pour, ben, c'est difficile de peut-être montrer là, en dehors de ce gros dossier quelles sont tes offres différentes là, de l'administration sortante.
Qui vivra, verra. Maintenant, on se dirige vers l'Assemblée nationale. Valérie Gaudreau, du Soleil, je trouve ça intéressant puisque Pablo Rodriguez réussit à faire parler de lui. Il entre en guerre ouverte avec des mots particuliers contre Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, lui, il l'a traité de corrompu hier. Et de l'autre côté, ben on a un Pablo Rodriguez qui traite pratiquement Paul Saint-Pierre Plamondon de raciste. C'est une bonne stratégie de la part des libéraux d'y aller, d'attaquer Paul Saint-Pierre Plamondon, sachant que le gars va réagir tout de suite, parce que dès qu'un éditorialiste dit quelque chose, qui ne fait pas son affaire, décide de sortir pour tenter de remettre les choses en place. C'est monsieur qui boude, là, monsieur qui n'est pas content, monsieur qui est fâché. Ça va y coller longtemps. Là.
Il prend beaucoup personnel, monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, puis un côté pédagogue là, où il veut toujours remettre en perspective. Bon, évidemment, en politique, c'est pas toujours facile parce qu'on sait que c'est les clips souvent qui l'emportent.
Mais la stratégie des libéraux semble fonctionner parce que Paolo, personne n'en parle de Paolo. Là.
celle-là, ça a marqué. Ça, effectivement, c'est ce qui est ressorti de la fin de semaine. Il était en congrès national à Trois-Rivières, les libéraux. Et de dire, c'est pas parce qu'on est pas souverainiste qu'on est moins québécois. Donc, ça sous-entendait effectivement qu'il y a un caractère un peu d'exclusion ou que, donc, on revient à cette campagne que M. Saint-Pierre Plamondon du PQ qualifie de campagne de peur.
Mais c'est-tu une bonne stratégie de la part de Pablo Rodriguez d'y aller de cette attaque-là?
Ben, moi, je trouve qu'elle arrive très tôt, cette attaque. Parce que là, à un moment donné, on en a pour un an. On le sait que M. Rodriguez veut revenir dans les esprits. Il a été élu le 14 juin. Il n'est pas au Parlement, donc il veut marquer le coup. D'arriver avec... En même temps, moi, je dirais le commentaire initial de M. Rodriguez ne m'a pas surprise tant que ça. Je veux dire, de dire que un référendum n'est pas la solution, qu'il faut arrêter de penser qu'aimer le Québec, c'est d'être souverainiste. Évidemment, ça, c'est dans la grande foulée d'une espèce d'autonomisme, de fierté nationale, libérale, malgré tout, mais dans le Canada, tu sais. Alors, c'est un peu le discours qui... Moi, ce qui me surprend, c'est la réplique aussi de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je me dis, hey, Yannick, si ces deux-là en ont à se répliquer de même pendant un an avant les élections, si le PQ prend le pouvoir puis qu'on est en éventuelle campagne référendaire, c'est-à-dire, ça commence fort dans les insultes. Là, jusqu'où on va se rendre? Moi, c'est ce son-là qui me dérange un peu là pour l'instant. Je trouve que ça démarre très, très vite dans la personnalisation du débat, parce qu'il faut dire que la réplique de Paul Saint-Pierre Plamondon, elle a fait bondir les libéraux aussi, parce que en gros, ce qu'il a dit, c'est que si on est capable de retomber dans la campagne de peur, ça, c'est la vieille méthode libérale, selon lui, c'est-à-dire on n'a rien à défendre, on n'a pas de bon bilan, on n'est pas capable d'amener des idées, donc on se rabat sur la peur. Et ce qu'il dit, c'est ça, on l'a vu dans le passé, et regardez ce que ça a donné. Et c'est là qu'il est arrivé en disant, ça a donné des administrations libérales affairistes et corrompues. Alors évidemment, la réplique, Pablo Rodriguez a répliqué sur X hier en disant, il me traite de corrompu. Monsieur Saint-Pierre Plamondon dit non, je parle de l'histoire des libéraux. Donc ça commence déjà la réplique, le traitage de Chignon. Mais ça, tu l'as dit, Annick, ça fait parler d'eux. Ça ramène l'axe rouge-bleu à l'Assemblée nationale, exact, dans la population, en plus que après-demain, c'est les 30 ans du référendum. On est dans le ton, et pendant ce temps-là, la CAQ est marginalisée complètement parce qu'ils ne sont pas dans cet axe, ce duel-là souverainiste fédéraliste qui commence à revenir dans nos esprits.
Parce qu'au niveau des stratèges politiques, là, du côté du PQ, ils sont une très, très petite équipe. Ils travaillent extrêmement fort, soit dit en passant. Puis, je veux dire, ça doit leur réussir puisqu'ils sont numéro un des intentions de vote au Québec. Mais Pablo Rodriguez, on s'entend que si Paul Saint-Pierre Plamondon n'avait pas réagi, ces histoires-là de « t'es pas moins canadien ou t'es pas moins québécois parce que tu veux pas de la souveraineté », ça aurait passé dans le vide, là. Fait qu'ils ont utilisé une faiblesse de Paul Saint-Pierre Plamondon pour se faire médiatiser.
Ah, c'est sûr qu'il s'amène dans l'arène. Ça, c'est assuré, parce que sinon, qu'est-ce qui était ressorti du congrès des libéraux? Bon, cette phrase-là, elle était ressortie, mais comme je te dis, hein, déjà, il avait parlé que la souveraineté, c'était pas une baguette magique, que nous serons le rempart contre un référendum. Donc, c'est quand même dans la suite de ça. Effectivement, M. Saint-Pierre Plamondon, hier, en choisissant... Hein, puis, faut se rappeler que le lundi à l'Assemblée nationale, ça ne siège pas tel quel. Donc, exact. Des vrais points de presse, c'est mardi, mercredi, jeudi, d'habitude. Alors là, il a convoqué spécialement pour répliquer en plein lundi. Lui aussi s'assure d'une bonne couverture avec une phrase choc. Donc, ça donne le ton. Et sinon, ben, M. Rodriguez, la phrase peut-être du congrès, ben, ce qui était ressorti, c'était quand même une certaine... Moi, j'étais pas à Trois-Rivières, mais j'ai vu là les... quand même... J'ai l'impression qu'il est en train de s'asseoir quand même là au parti. Tu as raison, il faut qu'il fasse parler de lui parce qu'il n'est pas à l'Assemblée nationale non plus. Mais quand même, on a vu, il y a un certain espoir qui renaît parce que plus on va parler de référendum, plus ça va servir les libéraux. Alors, cette dynamique-là qu'on n'a pas vraiment vue là, dans les dernières années, on s'entend qu'on était plus dans d'autres enjeux avec la CAQ qui était une position où la question constitutionnelle était moins à l'avant-scène. Alors, c'est sûr que ça lui profite. Et il y avait aussi toute la question de la loi sur les médecins. Ça, il avait produit de la scraper. Alors ça, c'est un autre mot de M. Rodriguez là, qui est sorti de Trois-Rivières en fin de semaine.
Valérie, est-ce que ce débat-là, justement, ce fameux axe bleu contre rouge, peut faire en sorte que les gens qui veulent pas retomber dans ce débat-là se tournent vers une troisième voie et la CAQ pourrait augmenter ou le Parti conservateur du Québec?
C'est une excellente question. J'ai l'impression que la CAQ s'est pas mal brûlée. C'est
oui,
difficile de voir que ça redeviendrait le refuge. Parce qu'il faut jamais oublier qu'autour de entre 2014 et 2018, où la CAQ s'est forgée tranquillement, ben ça devenait justement l'option à ces deux à cet axe en se disant ben écoutez, nous, on va avoir une espèce de paix là, là-dessus pendant quelques années. Or, les Québécois l'ont essayé pendant deux mandats. Et là, si cette question revient, la CAQ, elle était, faut jamais oublier qu'à l'origine, elle était quand même constituée de souverainistes ou de péquistes qui ont quitté le bateau. Ça a fait que le PQ a été marginalisé terriblement pendant plusieurs années. Et c'était aussi des libéraux qui ont dit « Hey, on va essayer ça, Legault ». Mais là, la réalité, c'est que ces gens-là, si ça taxe là, ils vont revenir à leurs premières amours. Et là, la question de dire, parce qu'il y a des fédéralistes dans la CAQ, il y a des péquistes dans la CAQ, si tout le monde rentre au bercail, ça laisse la CAQ seule. Il y a le côté fiscal, économique, où là, pour les gens qui étaient à la CAQ pour ce côté-là, ben là, ça pourrait être appelé et pour avoir plus d'appétit pour le Parti conservateur. Mais là aussi, encore là, Éric Duhaime n'est pas à l'Assemblée nationale. Il arrive à bien tirer son épingle du jeu médiatiquement, mais ça reste que il faut pas non plus que la tout le bruit autour de ce duel-là fasse que les autres sont complètement partis pour
l'avant. Valérie Godreau, en 15 secondes, ça brasse avec la fameuse loi spéciale de Christian Dubé, la CAQ, qui veut brasser un peu la sauce. Les médecins qui sont mécontents, il y a quelque chose de gros, là, une conférence de presse qui s'en vient dans les prochaines heures. On nous dit que ce sera grand. Est-ce qu'on a idée de ce qu'ils vont nous annoncer, la FMSQ?
Écoute, moi, il y a même trois événements rapidement aujourd'hui reliés à ça. À 8 heures, il y a un stun devant l'Assemblée nationale. On parle d'une manifestation. J'ai entendu dire qu'il y aurait, là, c'est un collègue de Radio-Canada qui disait ce matin qu'ils auraient peut-être du ruban, là, sur la bouche, une idée de muselage, baillon et tout ça. Alors ça, c'est plus un stun, disons, visuel. À 11 heures, le président, Dr. Oliva, fait un point de presse à Québec, Château-Laurier. On a l'impression là-dessus que là, peut-être qu'ils iront plus loin, peut-être qu'on va en savoir plus sur les intentions de contester juridiquement la loi, parce que là, dire qu'ils sont fâchés, à un moment donné, je pense que les mots sont plus assez durs, là, quand on est rendu à soviétique, puis à régime dérive autoritaire, là, je ne sais pas ce qu'ils peuvent ajouter en termes de montrer qu'ils sont très, très, très fâchés de cette loi-là.
La CAQ fait du trumpiste! La CAQ fait du trumpiste!
Je pense que la surenchère là d'insultes, je pense qu'on a un petit peu atteint là, la limite là, mais je pense qu'on pourrait peut-être déjà commencer parce qu'on le sait, ils veulent contester la loi, pas toujours l'élément là dont on parle le plus qui est la façon de rémunérer, mais empêcher par exemple d'aller en Ontario, de se désaffilier, il y a une question de télémédecine, il y a beaucoup d'autres éléments et ça, ce qu'il faut ressortir en une seconde, c'est que cette loi-là, elle est extrêmement complexe. Et il y a d'ailleurs un brefage aux journalistes aujourd'hui parce qu'on se rend compte, M. Dubé s'en rend compte, est trop compliqué sa loi. Les gens la comprennent pas, donc on va essayer de classifier un peu.
Merci Valérie.
Merci beaucoup, bonne journée.
Valérie Godreau, chroniqueuse municipale et maintenant aussi à l'Assemblée nationale pour le compte du Soleil. On a le plaisir de lui jaser une couple de fois de temps en temps. Mm-hmm. Je te dirais, c'est quoi, c'est deux, trois fois par mois, certains?
À peu près, oui.
On est gâtés. Puis parlant d'être gâtés, Denis s'en vient dans les prochaines secondes. Max.
Accident voie du centre, Capitale-Ouest, auteur Henri Bourassa. Capitale-Ouest, ça fait une couple d'accidents ce matin, là, ce qui fait que c'est assez compliqué. Capitale-Est aussi, il y a quelques problèmes. Ça, c'est plus dans le coin de Robert Bourassa, justement. Robert Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf au Rouge, entre 4 Sud, entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest au ralenti. Là, Rancienne Sud vers rue de la Faune, même chose. Et secteur des ponts, c'est encore assez difficile. Là, des répercussions, assurément, de ce qui s'est passé. Une panne un petit peu plus tôt vers le pont Pierre la porte direction nord.
La circulation, présentée par Antirouille Métropolitain. C'est le Grand Blitz.